Radio Kapi. Oh, Kapi.
C'est en principe ce mardi que se clôture le troisième round du processus de Nairobi après le report d'hier à cause du boycott de cette cérémonie par certains délégués des groupes armés. Le facilitateur Uhuru Kenyatta avance un problème organisationnel comme vous le suivrez tout de suite. Les causes et conséquences de la corruption en RDC, un sujet que nous abordons dans ce journal en marge de l'ouverture ce mardi de la conférence internationale contre la corruption aux États-Unis. Eloy Boudimboulia, consultant juridique au conseil présidentiel de veille stratégique, interviendra en fin de ce journal comme invité. Il présente un plaidoyer en faveur de l'entreprise Sakima qui, d'après lui, nécessite un apport de fonds. Restez avec nous parce que vous nous faites confiance pour votre information. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Initialement prévu lundi après-midi, la plénière de clôture du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC est reportée pour ce mardi. La décision est du facilitateur de ce processus. Hier, plusieurs délégations des groupes armés présents à Nairobi ont décidé de boycotter cette cérémonie. Uhuru Kenyatta dénonce un problème d'organisation. Les précisions avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papi Mukeba.
Les délégations des groupes armés présents à Nairobi se sont d'abord réunies dans la cour des Safari Park Hotel avant de décider à l'unanimité de boycotter la plénière de la clôture des travaux. Selon nos sources, certains disent n'avoir pas réussi leur per diem et d'autres avoir réussi un montant d'environ 300 dollars américains qu'ils jugent insuffisant. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC pour le processus de Nairobi, dénonce un problème d'organisation.
Mimi mwenyewe nilikuwa kati ya wale ambao walikuwa wanatafuta hizo fedha na hizo fedha sio zao.
Moi-même, j'étais parmi ceux-là qui cherchaient cet argent. Et cet argent ne leur appartient pas. C'est l'argent pour nous aider à ramener la paix en RDC. Et ceux qui sont concernés, ne pensez pas que la question de la paix est une blague ou un jeu. Qu'ils soient ici. Dans le cas contraire, moi, je n'ai aucun problème de me lever et de dire au monde entier qu'il ne faut plus donner de l'argent à ces gens s'ils ne sont pas en mesure d'organiser des pourparlers et de nous aider à avancer dans la bonne voie.
Selon nos sources, les rapports finaux des travaux consolidés avec la participation de tous les délégués est fin prêt. Il doit être dévoilé ce mardi avant d'être signé par tous les participants. Depuis Nairobi, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pour sa part, le président de la République salue le soutien des États de la SADC dans l'agression perpétrée par le Rwanda sous couvert du M23. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier lundi à l'occasion de l'ouverture de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC qui se tient à Kinshasa du 5 au 11 décembre 2022. Le thème de cette session est « Rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour assurer la paix et la sécurité dans la région de la SADC ». On écoute un extrait du discours de Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la SADC, extrait proposé par Alain Hirung.
Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. À plus d'une occasion, ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum, celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée, mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflit ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent, afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations.
Par ailleurs, sur son compte Twitter, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé avoir eu une conversation productive avec le président rwandais Paul Kagame et qu'il a souligné le besoin de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. Il a aussi précisé que les États-Unis exhortent le Rwanda à honorer les engagements pris à Luanda, notamment en mettant fin au soutien du Rwanda au M23. Côté primature, le Premier ministre a remis ce lundi 5 décembre ici à Kinshasa un chèque de 200 milliards de francs congolais au ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire Modeste Mutinga. C'était à l'occasion du lancement de la campagne de solidarité en faveur des déplacés dans les régions en conflit armé. Cette enveloppe constitue la contribution du gouvernement à cette campagne, souligne le service des communications du ministre Modeste Mutinga qui a livré cette information à Radio Okapi. Jean-Michel Samaloukonde a, dans son discours, invité toute la communauté congolaise à faire un geste pour les déplacés internes éparpillés dans les provinces en proie à l'insécurité. On écoute le Premier ministre dans ses propos recueillis par Pierrot Elamegi.
C'est pourquoi nous saisissons ce moment pour lancer cette campagne dans le but d'interpeller et d'appeler tous les compatriotes, autorités publiques, ministres, députés et sénateurs, gouverneurs, mandataires publics, hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, cadres, avocats, médecins, architectes, pasteurs, prêtres, artistes, ingénieurs, corps de métier, commençant, jeunes entrepreneurs congolais, ainsi que la diaspora, et j'en passe, à demeurer dans l'esprit de la solidarité et d'entraide qui nous caractérise comme un peuple hospitalier et généreux. Il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour, toute notre solidarité.
Actualité dans la province Haut-Katanga, plusieurs quartiers de la commune de la Kenya à Lubumbashi étaient en ébullition ce lundi. À l'origine, les affrontements entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC. D'après plusieurs sources, deux jeunes en sont morts. À ce sujet, l'Institut de recherche en droits humains, une ONG de défense des droits de l'homme, fustige ces actes qui ont paralysé les activités dans ces quartiers. Pour cela, l'IRDH demande au gouvernement provincial de s'impliquer pour mettre fin à cette anarchie qui n'a que trop duré. On écoute Hubert Tissouaka, responsable de cette ONG, au micro de Jean Gandou.
Nous sommes vivement préoccupés par la violence meurtrière des jeunes des partis politiques UDPS contre ceux de UNAFEC qui vient d'occasionner la mort d'au moins deux personnes à la commune de la Kenya. Une telle barbarie expose la province du Haut-Katanga à plus de violations des droits humains, encore de morts et de blessés, des déplacements internes de la population. Il nous revient que le conflit sous la gestion des parkings que l'hôtel de ville a abandonné au profit des jeunes de ces deux partis qui se battent dans l'anarchie totale. Par ce fait, nous recommandons au gouvernement provincial, au gouverneur Kiabula, de prendre des dispositions urgentes et immédiates afin que les fauteurs des troubles soient mis hors d'état de nuire devant la justice. Dans le contexte de la mort du pasteur Jérémy Oumba, nous demandons aux responsables politiques de l'UDPS et de l'UNAFEC d'entreprendre une immédiate campagne de paix afin que la fin de l'année soit exempte des troubles.
C'est ce mardi à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, que débute la conférence internationale contre la corruption organisée par Transparency International. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place qui revient sur les causes et conséquences de la corruption en RDC, un pays qui dispose suffisamment des ressources naturelles pour son développement au cœur de l'Afrique. Mais sa population s'enfonce davantage dans la misère alors que certains animateurs des institutions du pays et quelques opérateurs économiques se distinguent par un enrichissement illicite, dénonce la société civile. Michel Kifindangoy.
Classée parmi les plus riches en ressources naturelles, la RDC est comptée parmi les pays les plus pauvres et les plus corrompus dans le monde. Pour le président de l'Association des volontaires du Congo, la corruption, la concussion, le trafic d'influence et l'enrichissement illicite sont devenus un mode de vie en RDC. Doufi Natabou.
La vie des Congolais, c'est la concussion, c'est la corruption, c'est le trafic d'influence. L'argent de l'État, on le met dans leur poche au lieu de mettre cet argent dans la caisse de l'État. Nous sommes devenus comme des mercenaires dans notre pays.
Pour la Ligue congolaise contre la corruption, la quasi-totalité de l'argent mobilisé par les services de l'État n'entre pas dans les trésors publics. Ernest Mpararo.
La police de l'hygiène aux frontières a mobilisé dans trois provinces seulement plus de 12 millions de dollars. Mais cet argent n'est pas entré dans les caisses de l'État. Les miniers en complicité avec les agents, il y a détournement des fonds publics. Les rapports du Sénat venaient déjà de dire qu'entre 2018 et 2021, la RDC a perdu plus de 5 milliards de dollars.
Cette pratique de corruption a pour conséquence l'amplification de la misère des Congolais et la détérioration totale des structures étatiques au profit des opérateurs politiques et financiers qui s'enrichissent de plus en plus. De Washington DC, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
C'était trois nouvelles en rapport avec l'économie. Un accord a été trouvé entre la RDC et le groupe Glencore sur les accusations de corruption qui pesaient sur le géant minier suisse. Glencore devra verser 180 millions de dollars à l'État congolais. Cela pour mettre fin à toutes les actions présentes ou futures portant sur des accusations du groupe entre 2007 et 2018. Ces informations sont contenues dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 5 décembre. Plus de détails avec Cynthia Bachizina Bizana.
Ce communiqué précise que cet accord porte notamment sur des activités de certaines filiales du groupe qui ont déjà fait l'objet de diverses investigations, notamment par la justice américaine, la Cellule nationale des renseignements financiers ici en RDC, ainsi que le ministère de la Justice congolais. C'est ainsi qu'en application de cet accord, Glencore versera la bagatelle de 180 millions de dollars américains d'euros pour le compte de ces sociétés liées en RDC, accusées de corruption pour toutes les actions présentes mais aussi futures pour des faits entre 2007 et 2018. Le géant minier suisse s'engage également à déployer en RDC un programme d'éthique et de conformité. Pour rappel, en 2018, Glencore avait été assigné par le département américain de la justice dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption liée à ses activités au Nigeria, au Venezuela et en RDC. L'entreprise avait plaidé coupable. Glencore avait alors reconnu avoir distribué presque 28 millions de dollars américains à des fonctionnaires en RDC pour s'octroyer leur faveur.
Plus au centre du pays, dans le Kasaï oriental, hausse du prix de maïs sur les marchés de la ville de Mbujimayi. La mesurette de 3,5 kg de maïs coûte actuellement 7500 francs congolais. Pourtant, il y a deux semaines que la mesurette se vendait à 5000 francs congolais. Plusieurs causes sont évoquées par les vendeuses ainsi que par les fournisseurs de cette denrée alimentaire. Dans un communiqué rendu public le week-end, le gouverneur de province interdit la sortie de toute cargaison de maïs dans la ville de Mbujimayi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le maïs, aliment de base de la province du Kasaï oriental, a connu depuis la semaine dernière une hausse vertigineuse de prix. Les ménagères se plaignent.
Les enfants ne mangent pas à leur faim. Certains enfants cueillent le mangue pour manger très tôt le matin. C'est vraiment la souffrance.
Les vendeuses expliquent cette hausse par la carence de cette denrée alimentaire sur le marché de Mbujimayi.
Nous vendons à 7500 et à 8000 pour gagner une mesurette de maïs comme bénéfice à nourrir aux enfants.
Les fournisseurs de cette denrée à Mbujimayi, quant à eux, évoquent les problèmes d'évacuation par la SNCC et le mauvais état des routes.
D'abord, nous sommes pendant la période de figure. Tous les produits vivriers ne sont pas encore récoltés. Il y a aussi le manque des locomotives pour traiter les wagons de maïs achetés à l'est.
Face à cette hausse de prix de maïs, le président de l'Assemblée provinciale est descendu ce samedi dans le marché pour s'enquérir de la situation. Cette rareté de maïs a perturbé certaines activités, dont notamment celles des manutentionnaires qui travaillent sur le véhicule et celles des femmes qui s'occupent de la mouture pour les femmes ménagères. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Nouvelle en rapport avec le climat, il y a environ deux mois depuis que les inondations continuent de sévir dans plusieurs localités du Grand Équateur. Elles font suite à des pluies diluviennes qui s'abattent au quotidien sur la région. Une pluviométrie assez élevée à cause notamment de sa position de part et d'autre de la ligne de l'Équateur. Une situation consécutive également au changement climatique. Radio Okapi amorce à cet effet une série de reportages liés à cette catastrophe naturelle qui affecte des milliers de populations avec des conséquences humanitaires graves. D'abord, notre correspondant régional Paul-Richard Malengela nous brosse la cartographie des zones sinistrées par ces inondations.
Outre le fleuve Congo, ces inondations concernent aussi toutes les rivières qui traversent les cinq provinces du Grand Équateur, notamment l'Ubangi, la Mongala, la Ruki, la Tchouapa, la Bouzira, l'Ikelemba, l'Angiri et j'en passe. Des témoins affirment que le long de la rivière Ubangi, par exemple, des milliers de riverains sont sinistrés à Yakoma. Les littorales des localités de Mobaimbongo, Zongo, Libenge, Dongo, Lilanga, jusqu'à l'embouchure sous le fleuve Congo à 100 km en aval de Mbandaka, ne sont pas en reste. Même situation à Congo, Mobeka, Makaza, d'où plusieurs riverains se sont déplacés, leurs habitations étant englouties sous les eaux. Entre-temps, à Lolo, sous la rivière Bouzira, en amont de Mbandaka, l'un des marchés qui approvisionne la ville a été déplacé à plus de 3 km sous la terre ferme. Il faut ramer à bord des pirogues sous des arbres pour aller acheter des vivres, ont indiqué les voyageurs. Dans la cité de Bongandaga, province de la Mongala, plusieurs marchandises gardées dans les entrepôts du port ont été avariées, a signalé le président de la société civile. Enfin, l'administrateur du territoire de Libengue, qui a évalué à plus de 1000 ménages sinistrés dans son entité, annonce une baisse progressive des eaux. Toutefois, Wutunong redoute que les conséquences vont demeurer encore plus longtemps. Bondaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Le taux de croissance au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA s'est élevé en 2022 à 5,7%, en baisse de 0,4% par rapport à 2021, ont annoncé lundi les dirigeants de cette organisation réunis en sommet à Abidjan. Les 8 pays membres de l'UEMOA, Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Mali, Niger et Burkina Faso, n'ont pas été épargnés par les crises profondes qui affectent le monde entier, en particulier les conséquences de la guerre en Ukraine, au moment même où nos économies se relevaient du choc de la crise liée au Covid, a souligné le président ivoirien Alassane Ouattara. Des dirigeants militaires et civils au Soudan ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à la crise politique. L'accord salué par Washington et ses alliés intervient après des multiples tentatives pour sortir de l'impasse. L'accord cadre a été signé par le général Bourane, le commandant paramilitaire Mohamed Ahmed Daglo, ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la Liberté et le Changement.
L'invité.
Notre invité est Eloi Boudimboulia, consultant juridique au Conseil présidentiel de veille stratégique. Après une visite au siège de la société Sakima dans la commune rurale de Kalima au Maniema, Eloi Boudimboulia rapporte que cette société est par terre et que l'État doit mettre des moyens dans cette entreprise publique pour sa relance. Eloi Boudimboulia s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Eloi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Vous avez effectué une mission à Kalima au siège de la société Sakima. Vous êtes rentré avec quel constat?
Oui, nous avons été à Kalima, tel que c'était prévu au départ de notre mission. Et nous devrions nous rendre compte de l'état actuel de la société Sakima en arrivant à son siège administratif. Et donc, cela a été chose faite et nous avons accompli une part importante de notre mission.
Une fois arrivé sur place, qu'est-ce que vous avez vu?
Oui, nous avons vu que la société est vraiment par terre, la société ne fonctionne pas, la société se contente de gérer quelques contrats avec les coopératives minières, de gérer la centrale hydroélectrique, et voilà, les litiges du personnel, c'est ce qui préoccupe les agents que nous avons rencontrés sur place actuellement.
Mais qu'est-ce qui vous a motivé à aller jusqu'au siège de Sakima dans la commune rurale de Kalima?
Oui, c'était très important parce que au siège, c'est là où il y a toutes les autorités. Le DGA est là et donc c'est la bouche autorisée pour pouvoir nous dire l'état réel de l'entreprise. Donc c'est ainsi qu'il était important pour nous de les rencontrer.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre?
Le constat est général. Il n'a pas une situation à lui et une situation pour les autres. C'est-à-dire que ce qu'il nous a dit, c'est ce qui est. C'est là la réalité. Mais il n'a cessé de demander que nous puissions mener un plaidoyer auprès de l'autorité pour que l'État puisse mettre les moyens dans cette société, cette entreprise publique, mais aussi que l'État puisse donner un coup de pouce à la société pour contraindre tous ces gens qui ont signé des partenariats à pouvoir s'exécuter.
La société est par terre alors qu'elle a déjà signé beaucoup de contrats avec différentes sociétés?
Oui, c'est paradoxal. C'est-à-dire que ces sociétés qui ont signé des contrats avec Sakima, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont contentés de commencer à acheter la production des artisanaux au lieu de faire des investissements dans l'exploitation. Donc jusqu'aujourd'hui, aucune société qui a signé un contrat avec Sakima n'a commencé la production, même pas les forages pour une exploitation industrielle. Donc c'est ce qui fait que Sakima se trouve dans une situation difficile parce que ces gens qui étaient censés lui donner les moyens, ils ne travaillent pas.
C'est ce qui pousse Sakima à recourir aux exploitants miniers artisanaux pour acheter les minerais?
Oui, donc l'outil de production de Sakima est complètement détruit. Donc Sakima ne peut pas faire une exploitation industrielle et par conséquent, pour ne pas s'effacer sur la chaîne d'approvisionnement, parce que si la situation reste comme telle, sur le marché de commercialisation, on ne parlera plus de Sakima, parce qu'on va parler de ces gens-là qui exportent. Donc Sakima aussi a intérêt de maintenir son nom sur la chaîne d'approvisionnement.
Vous avez aussi vu l'état de la route en tant que conseiller présidentiel de veille stratégique. Vous irez avec quel plaidoyer auprès du chef de l'État?
Oui, nous avons vu l'état des routes, nous avons vu l'état des écoles, nous avons vu les états des centres de santé. Et donc, vraiment, le social est vraiment négligé. Donc, les conditions sociales vont très mal. Et c'est ça la conséquence lorsque la société qui était appelée à faire ce qu'on appelle la responsabilité sociétale ne fonctionne pas. Il est évident que le social aussi ne puisse pas s'améliorer. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous poussons pour que cette société de l'État puisse reprendre ses activités et que l'impact sur la communauté, sur la population puisse être visible.
Pouvez-vous nous confirmer ici que de votre passage au Maniema, toutes les doléances de la population seront présentées au chef de l'État pour de probables solutions?
Nous allons faire rapport à notre hiérarchie et c'est la hiérarchie qui va nous dire qu'est-ce que nous allons faire par la suite. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que la situation va changer. Nous avons fait l'état des lieux, nous avons fait les constats. Maintenant, nous rapportons à ceux qui nous ont envoyés.
Et à l'autorité provinciale, qu'est-ce que vous lui dites par rapport à ces secteurs miniers?
L'autorité locale au niveau de la province fait ce qu'elle peut faire, mais dans les secteurs miniers, vous savez que ses compétences sont très limitées. Donc, dans les secteurs industriels, l'autorité provinciale n'a aucun pouvoir. Et même dans l'artisanat, l'octroi des zones d'exploitation artisanale, l'agrément des coopératives, l'agrément des entités de traitement, tout cela, c'est la compétence de Kinshasa. Donc nous allons plaider pour que l'autorité locale soit désormais associée aux grandes décisions qui vont se prendre en ce qui concerne cette société au niveau de Kinshasa.
Monsieur Eloï, je vous remercie.
Fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci d'avoir été des nôtres. Ce journal vous a été préparé par Alain Rong et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.